Et tout de suite, vous retrouvez Juliette Jacquemin pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Merci Jeanne Bartoli et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité américaine aujourd'hui, c'est cette première rencontre entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump. Ce sera tout à l'heure à Washington. Alors que le milliardaire a multiplié les déclarations provocatrices à l'égard de l'Allemagne et de l'Europe ces dernières semaines. Nous reviendrons également sur les conditions dans lesquelles le premier ministre haïtien désigné, Jacques-Guy Lafontaine, a obtenu le vote de confiance des sénateurs hier matin. Des conditions qui ont suscité nombre de critiques dans la presse, on le verra. Et puis l'histoire de l'esclavage antillais au Canada commence à être mieux connue, mieux étudiée. Pour preuve, cette pièce de théâtre, Angélique, jouée à Montréal, elle raconte l'histoire d'une jeune esclave dans le Canada du 18e siècle.
Une partie des colonies comme Montréal ou d'autres au Canada ont été construites sur le dos d'esclaves noirs et amérindiens. Ici, les esclaves étaient surtout des employés de maison. C'est vraiment une période sombre de notre histoire qui a largement été occultée.
Le metteur en scène de la pièce Angélique a retrouvé dans un reportage de Pascal Guéricola à la fin de ce rendez-vous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On prend désormais la direction de Washington. La chancelière allemande Angela Merkel devait rencontrer pour la première fois Donald Trump mardi. La tempête de neige est venue bouleverser ses plans, mais c'est donc aujourd'hui que la visite de la chancelière doit avoir lieu. Un premier face-à-face très attendu, tant tout semble opposer le milliardaire américain, novice en politique, souvent incontrôlable, et la dirigeante allemande, prudente et expérimentée. Question de style, mais aussi question de choix politique. Pour en parler, nous sommes avec Harim Lippold. Bonjour.
Bonjour
Harim.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
En novembre dernier, la chancelière ne s'attendait certainement pas à la victoire de Donald Trump, mais depuis Harim, il semble qu'elle se soit fait une raison.
Oui, fidèle à son pragmatisme bien connu, Juliette, Angela Merkel veut établir le meilleur dialogue possible avec la nouvelle administration, sans pour autant renoncer à ses valeurs et principes qu'elle continue à défendre. Par exemple, la chancelière n'a pas hésité à critiquer le premier décret anti-immigration de Donald Trump.
La lutte nécessaire et déterminée contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leurs croyances, en l'occurrence ici des personnes de foi musulmane, ou en fonction de leur origine.
Il faut dire qu'Angela Merkel avait fait un choix radicalement opposé à celui de Donald Trump. On se souvient de ces plus d'un million de réfugiés accueillis en Allemagne depuis le début 2015.
Oui, ce qui lui a valu d'ailleurs de fortes critiques de la part, justement, du candidat Donald Trump.
L'Allemagne est un colosse économique, et ce pays a été détruit par Merkel. Moi, je pensais qu'elle était une excellente dirigeante, mais elle s'est laissée emporter, et aujourd'hui, le taux de criminalité est énorme.
Alors voilà pour l'immigration, mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel la chancelière et le président ne sont pas d'accord.
Oui, l'économie, Juliette, est une autre pomme de discorde. Donald Trump a menacé les entreprises allemandes de lourdes sanctions douanières. La chancelière devra donc convaincre le président américain des bienfaits du libre-échange. Daniela Schwarzer du centre de recherche DGAP à Berlin.
C'est surtout l'Allemagne qui a des intérêts très importants, notamment le président américain a annoncé qu'il voulait peut-être mener une politique commerciale plus protectionniste. Et comme les États-Unis sont un partenaire économique très important pour l'Allemagne et en matière de commerce et en matière d'investissement direct aux États-Unis, pour l'industrie allemande, c'est très important qu'il n'y a pas de protectionnisme du côté des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne.
Et il ne faut pas oublier, Harim, que lorsqu'Angela Merkel parlera avec Donald Trump tout à l'heure, ce sera aussi en tant que porte-parole de l'Union européenne.
Oui, exactement, qu'elle arrive à un moment, Juliette, où l'Europe n'a franchement pas bonne presse à Washington. C'est le moins que l'on puisse dire. Christian Heller, député européen conservateur, s'y est rendu il y a quelques semaines.
Nous avons dû constater avec une certaine inquiétude qu'il y a au sein de l'administration Trump des sentiments anti-européens. Des gens qui souhaitent même la fin de l'Union européenne. Nous leur avons expliqué que de telles positions constituaient un problème pour les relations transatlantiques.
Et du coup, la chancelière allemande aura la lourde tâche de véhiculer une image positive de l'Europe. Daniela Schwarzer.
Pour être écoutée, la chancelière doit arriver avec un message fort, c'est-à-dire à la fois une volonté politique de rétablir les relations transatlantiques qui ont quand même un peu souffert pendant les premières semaines du président Trump, mais il faut aussi qu'elle puisse expliquer en quoi l'Europe et l'Allemagne sont utiles au président Trump.
Angela Merkel veut apaiser les tensions et elle est même prête à augmenter notamment les dépenses militaires.
Oui, exactement. C'est une des demandes fortes du président américain qui veut rééquilibrer plus justement les contributions nationales au budget de l'OTAN. Côté allemand, Juliette, on appréhende un tout petit peu quand même cette rencontre avec l'imprévisible Donald Trump. Angela Merkel s'y est préparée en réécoutant certains de ses discours et elle a aussi appris que pour avoir l'oreille du président américain, eh bien, il faut donner des messages courts sans se perdre dans les détails. Un exercice plutôt difficile pour l'ancienne scientifique.
Merci Arim Lipold pour ces explications. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Schuller qui nous a rejoint pour la revue de presse des Amériques. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Alors Stéphanie, cette rencontre très attendue entre Donald Trump et Angela Merkel a déjà suscité des commentaires dans la presse américaine.
Mais le Christian Science Monitor estime que l'enjeu de ce premier face-à-face sera moins d'ordre factuel que d'ordre personnel. La question est de savoir si les deux dirigeants trouveront un modus vivendi pour pouvoir collaborer dans les années à venir. Le Kansas City Star, de son côté, estime que Donald Trump fera bien de prendre exemple sur Angela Merkel et le journal cite deux traits marquants du caractère de la chancelière qu'il aimerait bien voir appliquer donc au président américain. Sa modestie et son flegme Merkel est la même du vendredi au lundi. Son visage ne trahit que rarement ses pensées. De par son tempérament, elle avance lentement, avec méthode et patience, mais toujours dans la même direction. Avec la chancelière, Donald Trump se doit être plus équilibré qu'à son habitude, estime aussi le Minneapolis Star Tribune, pour qui Angela Merkel est la plus importante dirigeante européenne et une cohésion transatlantique est nécessaire, même si le président souhaite mettre en avant sa politique de l'Amérique d'abord.
Autre titre dans la presse américaine, ces déclarations inquiétantes du secrétaire d'État Rex Tillerson.
L'ère de la patience stratégique envers la Corée du Nord est finie, a annoncé Rex Tillerson lors d'une conférence de presse avec son homologue sud-coréen à Séoul. Certainement, nous ne voulons pas que les choses en viennent au conflit militaire, mais si ils élèvent donc les Nord-Coréens le niveau de menace de leur programme d'armement à un niveau qui nécessite à nos yeux une action, alors toutes les options seront sur la table, a-t-il encore averti. Les déclarations de M. Tillerson sont la première indication sur la politique que compte mener l'administration Trump vis-à-vis la Corée du Nord et elles font comprendre que l'option de continuer à négocier ou à attendre l'effondrement du gouvernement nord-coréen ne sont désormais plus à l'ordre du jour.
Et à propos de cette crise entre Washington et Pyongyang, eh bien Donald Trump vient tout juste de s'exprimer sur Twitter. Il le dit, la Corée du Nord se comporte très mal. Elle s'est moquée des États-Unis pendant des années. Donald Trump qui accuse aussi Pékin d'avoir fait très peu pour aider dans cette histoire. On prend désormais la direction d'Haïti, Stéphanie. On en parlait hier avec le journaliste Franz Duval, le premier ministre désigné Jacques-Guy Lafontaine, a finalement obtenu l'approbation du Sénat. C'était hier à l'aube. Mais les circonstances dans lesquelles ce vote s'est déroulé font aujourd'hui l'objet de vives critiques dans la presse haïtienne.
Absolument, Juliette. Jacques-Guy Lafontaine gagne la première manche, titre le Nouvelliste. Sans changement dans son cabinet ministériel, finalement, malgré les dernières négociations de mardi, histoire d'aplanir le terrain politique, le Premier ministre nommé s'est frotté aux doléances des élus, à la limite de leurs supplications, aussi diverses que copieuses, durant plus de 12 heures, résume le quotidien qui poursuit. Il ne pouvait aucunement y échapper parce que ça colle à l'histoire parlementaire, parce que les retards, les carences de l'Haïti profonde, rurale, sont gargantesque et qu'il a fallu au Premier ministre de prendre note à chaque flot de demandes et égrener des promesses à tout va, feignant d'ignorer l'état de notre économie exsangue juste pour plaire aux élus, pour mériter le vote qu'il a enfin eu.
À une méthode qui évidemment aura un coût.
C'est en tout cas la mise en garde du journal Le National. Reste à savoir quel coup, Juliette. Dans son éditorial, le Nouvelliste cite le sénateur Joseph Lambert qui, dans une interview mardi, avait énuméré les différents postes ministériels ainsi que les postes de directeurs généraux dans les organismes autonomes de l'État qui ont été attribués aux députés et aux sénateurs comme condition pour accorder leur vote au Premier ministre. Jacques-Guy Lafontaine s'est donc donné les moyens d'entrer à la primature, constate amèrement le National. Il aura exploité la détresse identitaire des élus et cette hantise morbide provoquée par l'envie aiguë de se maintenir au pouvoir qui guide leurs actions. Mais l'addition est salée, prévient le quotidien.
Et oui, car c'est la crédibilité des élus qui est désormais en jeu.
Absolument. Le Nouvelliste parle d'un spectacle hideux qui vient d'offrir le Parlement cette semaine. Un spectacle qui va davantage mettre les parlementaires sur la sellette, prévient l'éditorialiste avant de conclure. Avec quelle moralité les commissions permanentes vont exercer le pouvoir de contrôle, par exemple sur les actes des ministres qu'ils ont eux-mêmes mis en place, sans parler de la détermination avec laquelle les députés et les sénateurs s'obstinent à placer des proches dans ces administrations et qui semblent faire croire que ces institutions seront encore plus corrompues qu'auparavant.
Merci Stéphanie Schuller d'avoir été avec nous. Le Québec, face à son histoire pendant très longtemps, la province a occulté un épisode de son passé, l'histoire d'une jeune esclave antillaise accusée en 1730 d'avoir mis le feu à la maison de ses maîtres, provoquant un incendie gigantesque dans un quartier marchand. Aujourd'hui, cet épisode est justement raconté dans une pièce de théâtre. Elle s'appelle Angélique et elle est présentée en ce moment au Centre Ségal à Montréal. Pascal Guéricola y a assisté.
Sur scène, Jacques César, le mari imposé à Angélique, découvre son nouveau-né au milieu de ses maîtres. Déjà, il sait que l'enfant sera vendu. Normal, puisque ses deux parents appartiennent à de riches propriétaires de Montréal, qui fait alors partie de la Nouvelle-France, une colonie qui dépend de Paris. Longtemps, les récits de vie de ces esclaves venus des Antilles, du Portugal ou issus des nations amérindiennes n'ont occupé que très peu de place dans les manuels d'histoire. Voilà pourquoi le metteur en scène Mike Payette juge primordial de présenter la pièce Angélique à Montréal.
Une partie des colonies comme Montréal ou d'autres au Canada ont été construites sur le dos d'esclaves noirs et amérindiens. Le type d'esclavage pratiqué ici différait de celui des Antilles françaises ou des États-Unis, où les gens travaillaient surtout dans les plantations. Ici, les esclaves étaient surtout des employés de maison. Les rapports entre ceux qui détenaient le pouvoir et leurs serviteurs étaient donc plus cachés. C'est vraiment une période sombre de notre histoire qui a largement été occultée.
L'histoire racontée par les vainqueurs accuse l'esclave Angélique d'avoir mis le feu chez sa maîtresse qui refusait de la libérer, ce qui a provoqué un gigantesque incendie dans le quartier du port. La jeune femme sera exécutée par un ancien esclave martiniquais devenu bourreau. Trois siècles plus tard, ce récit, campé dans la ville où il est né, fascine Tristan Dilala. Il incarne le mari d'Angélique.
Les rues du vieux Montréal le soir, c'est vraiment fascinant. Vous imaginez l'horreur qui plane, vous pensez à la légende du fantôme d'Angélique qui hante les lieux avec ses traces de brûlures sur la poitrine. Je suis très heureux qu'une pièce soit enfin montée sur cette histoire qui est la nôtre. Nous, les descendants de ces gens-là, nous devons parler des conséquences de l'esclavage aujourd'hui. Et certains ont tendance à avoir des préjugés sur les gens simplement à cause de leur apparence. Des personnes comme Trevor Martin ou Mike Brown ou moi, quand j'avais 18 ans, que l'on a tendance à diaboliser simplement parce qu'il porte un capuchon sur la tête. You might be put into
a certain box. L'acteur, dont la famille a travaillé en esclavage sur l'île de Trinidad dans les Antilles, se souvient des jeunes noirs assassinés ces dernières années aux États-Unis. Jenny Brizard, l'actrice d'origine haïtienne qui joue Angélique, a cette réponse quand on lui demande s'il est nécessaire de jouer la pièce en 2017.
Oui, je trouve qu'il y a tellement de choses qui arrivent présentement dans les médias et ainsi de suite, qui nous fait repenser à ces années-là, qui nous fait voir que oh, peut-être on n'est pas complètement sorti de ces années-là.
Depuis une dizaine d'années, la vie d'Angélique et des autres esclaves du Québec émerge de l'ombre. La pièce de théâtre va permettre de leur donner une certaine humanité au-delà du triste symbole qu'ils représentent. Pascal Guéricola, Montréal, RFI.
Et à Montréal, il est 9h24 du matin.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Odane Agiali.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Odane, c'est une impressionnante saisie d'armes et de drogue au centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe.
Oui, la fouille aura duré 2 jours et mobilisé pas moins de 110 gendarmes. En tout, 144 cellules et 226 détenus inspectés. Le résultat dévoilé par la préfecture de Pointe-à-Pitre impressionne. 199 armes, pour la plupart artisanales, ainsi que 86 portables et des stupéfiants ont été saisis. Des saisies qui donneront lieu à des enquêtes, comme l'explique le procureur de la République, Xavier Bonhomme.
De manière systématique, des enquêtes judiciaires vont se dérouler, hein, avec des poursuites qui seront sur un plan judiciaire systématique dès lors que nous aurons réuni des charges suffisantes à imputer à telle ou telle personne. Ce type d'opération sera renouvelé de manière régulière, ça c'est important, de même que celle que je requiers de manière très très systématique de contrôle des parloirs. Donc ça c'est une chose à savoir.
Xavier Bonhomme répondait à Guillaume Desmalles de Guadeloupe Première et le procureur de la République fait savoir que des opérations d'une telle envergure ne pourront pas être répétées tous les mois. En octobre, une première inspection à la prison de Baie-Mahault avait permis de mettre la main sur un peu plus de 230 armes, mais aussi de 130 téléphones portables. La Martinique met la Christophine à l'honneur cette semaine. Ce légume au goût proche de l'aubergine cultivé sous les climats chauds pousse notamment aux Antilles. On l'appelle par ailleurs chouchou ou chayotte sous d'autres latitude. Et c'est pour soutenir les agriculteurs locaux que le marché couvert de Fort-de-France organise une grande foire à la Christophine. Reportage gourmand signé Ronan Bonnec.
On va manger des Christophines à la morue.
Armé de sa cabas, chacun a sa petite idée de recette en attendant son tour devant le grand étal de Christophine. Une opération spéciale pour écouler la production locale dont la date n'a pas été choisie par hasard. Thierry Collère, responsable du service Halles et Marchés à la ville de Fort-de-France.
On a mis ça dans cette période de carême. C'est un produit qui s'y prête puisque dans la culture martiniquaise, avant c'était la salade de Christophine cuite avec de la morue fruit et tout ça. Donc c'est ça qu'on essaie de faire revivre à travers ça. Et c'est pour cela que nous avons mis du poisson boucané et avec des acras qui sont faits qu'avec la Christophine.
Des fiches recettes sont même distribuées pour mettre la Christophine en toute sauce. Et pas seulement, la chayotte renferme une grande part de composants actifs qui lui donnent la propriété de soigner les brûlures. La pulpe crue du fruit, utilisée en masque, était réputée effacer les taches sur le visage. Mais l'argument gustatif parle directement aux papilles. Quittons le grand marché de Fort-de-France, non sans se rappeler quelques rudiments pour confectionner, évidemment, un bon gratin de Christophine.
Je mets 2 cuillères de farine dans mon gratin, dans mon roux, quoi. Et après, je mets ma purée de Christophine dans le plat à gratin, mon fromage râpé dessus, et voilà.
Et c'est bon ?
C'est très bon. Oui, je confirme, c'est très bon.
Alors que la manifestation se termine demain, presque la totalité des 18 tonnes de Christophine disponibles a déjà été écoulée. Et puis il a dû certainement manger beaucoup de légumes pour en arriver là. Le Guadeloupéen Didier Dinard, sacré meilleur coach du monde, l'entraîneur de l'équipe de France de handball, a été élu hier par les fans, les experts et les médias du monde entier. Encore une distinction pour celui qui a mené les Bleus à la victoire au dernier championnat du monde de handball. Bonne journée.
Bonne journée et merci à vous, Odane Agiali. Merci aussi à Rodolphe Marquand à la réalisation de cette émission aujourd'hui. Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, il est presque 14h30 ici à Paris, 9h30 à Port-au-Prince. Lundi, c'est Marie-Normand que vous retrouvez pour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Restez avec nous, l'information revient dans quelques secondes avec Jeanne Bartoli. Passez une très belle journée sur la Radio du Monde.
Le concours du Club RFI.
Jusqu'au 22 avril 2017, l'Alliance francophone, RFI et la revue L'Incertain organisent la 5e édition du prix de la jeune écriture francophone Stéphane Hessel. Ce concours de nouvelles, ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans, a pour thème l'espoir.
Pour connaître les conditions de participation, rendez-vous sur RFI.fr, sur les réseaux sociaux du Club RFI et maRFI.rfi.fr. Oh yeah.
RFI Talent présente les Amazones d'Afrique. Un collectif inédit réunissant pas moins de 8 chanteuses, parmi lesquelles figurent Angélique Kidjo, Neka, Candia Kouyaté ou encore Mamani Keita. Réunis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ces divas signent un album unique intitulé République Amazone. Plus d'infos sur musique.rfi.fr/talent.